Bien vu pour cette exploration, aujourd'hui on plonge dans les concepts fondamentaux du potentiel et des champs électriques. On va essayer de décortiquer ça ensemble, à partir de termes clés qu'on a sous les yeux. L'idée, c'est vraiment de clarifier ces bases de l'électrostatique. Vous êtes prête, Evel?
Ah oui, tout à fait. On va décomposer des notions comme l'énergie potentielle électrique, le potentiel lui-même, et puis le lien avec le champ électrique. Voir un peu comment tout ça décrit les interactions entre les charges.
Parfait. Alors, commençons peut-être par l'énergie potentielle électrique. Si je suis bien, c'est une forme d'énergie qui est liée en fait à la position des charges à cause de la force électrique entre elles. C'est ça.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'énergie qui est associée à la force électrique. Elle représente, d'une certaine manière, le travail que cette force pourrait faire si on laissait les charges bouger. Pensez à un ressort. Quand il est tendu, il stocke de l'énergie, quoi.
D'accord. Et j'imagine que le calcul n'est pas le même partout. Les sources parlent de champs uniformes, de charges ponctuelles.
Tout à fait. Dans un champ électrique, disons, simple, uniforme, l'énergie va juste dépendre de la position. Mais entre deux charges ponctuelles, là, ça dépend de leur distance, à cause de la fameuse force de Coulomb.
Oui.
Et si on a un système plus complexe, avec plein de charges, eh bien, on fait la somme. On additionne les énergies potentielles de chaque paire de charges. Ça donne l'énergie totale qui est stockée dans la configuration.
D'accord. L'énergie est stockée. Compris. Mais alors, après, on parle de potentiel électrique. C'est pas juste un synonyme.
Ah non, et c'est vraiment une distinction cruciale. Le potentiel électrique, en un point, c'est l'énergie potentielle qu'une charge test aurait à cet endroit.
Une charge test, oui. Divisée par la valeur de cette charge test. C'est ce que les sources appellent le rapport TOTRA énergie potentielle électrique et caritia d'épreuve.
D'accord.
Et l'avantage énorme, c'est que le potentiel, lui, il décrit l'influence électrique de l'environnement, mais indépendamment de la charge qui va la subir.
Ah, je vois.
C'est une propriété de l'espace lui-même, créée par les autres charges, si vous voulez. Son unité, c'est le volt.
Ah oui, d'accord. Ok. C'est plus abstrait, mais du coup plus général. Au lieu de recalculer l'énergie pour chaque type de charge, on a une sorte de carte. Une carte du paysage énergétique, c'est ça?
C'est une excellente image, oui. Une carte du paysage énergétique. Et cette carte, bien sûr, on peut la tracer pour différentes situations. Un champ uniforme, une charge ponctuelle seule, un groupe de charges. Et souvent, en pratique, ce qui est vraiment le plus utile, c'est pas tant le potentiel absolu que la différence de potentiel entre deux points.
La tension?
La tension, exactement. Mesurée en volts. C'est elle qui nous dit combien d'énergie on gagne ou on perd en déplaçant une charge d'un point A à un point B.
C'est logique.
Et d'ailleurs, il y a une unité d'énergie super pratique en physique des particules, l'électron-volt, électron-volt, qui est définie directement comme ça. C'est l'énergie que gagne un électron quand il est accéléré par une différence de potentiel de juste un volt.
Très clair. Bon, maintenant le lien. Comment ce potentiel, cette carte, se connecte au champ électrique? Le champ, c'est plutôt une force, non?
Les notes disent qu'on peut calculer le champ à partir du potentiel.
Oui, c'est un lien fondamental. Reprenons l'image de la carte de relief. Le potentiel, c'est l'altitude. Le champ électrique, en un point donné, eh bien, c'est la direction et la force de la pente la plus raide à cet endroit.
Ah, d'accord.
Là où le potentiel change très vite, la pente est forte, donc le champ est intense. Là où c'est plat, potentiel constant, eh bien, la pente est nulle, le champ est nul. Mathématiquement, on dit que le champ dérive du potentiel. Super analogie. Et du coup, les surfaces équipotentielles, ces superficies équipotentielles, ce seraient les lignes de niveau sur la carte.
Les courbes à altitude constante.
Exactement. Parfaitement ça. Des surfaces où le potentiel a la même valeur partout. Si vous vous déplacez le long d'une telle surface, eh bien, ça ne coûte aucun travail contre la force électrique.
Logique.
Et une propriété géométrique clé. Le champ électrique est toujours perpendiculaire à ces surfaces équipotentielles. Toujours. Il pointe, si vous voulez, dans la direction de la plus grande descente du potentiel.
D'accord, ça se tient. Reste un dernier point qui m'intrigue un peu. La circulation du champ électrique. Circolazione del campo elettrico. Surtout pour le champ électrostatique. Qu'est-ce que ça recouvre, ça?
Alors, la circulation, pour faire simple, ça mesure un peu comment un champ vectoriel, comme le champ électrique, accompagne ou s'oppose à un déplacement le long d'un chemin donné. Et la propriété vraiment importante pour le champ électrostatique, celui qui est créé par des charges fixes, statiques, c'est que si vous calculez cette circulation le long d'une boucle fermée, c'est-à-dire si vous partez d'un point et que vous y revenez,
oui, c'est ça.
Le résultat est toujours, toujours zéro. C'est ce que « circuitazione lungo una linea chiusa e orientata » signifie dans ce contexte.
Toujours zéro, mais qu'est-ce que ça implique concrètement?
Eh bien, ça implique une propriété fondamentale. La force électrostatique est conservative. Le travail total que cette force fait sur une charge qui décrit une boucle est nul. L'énergie qu'on dépense sur une partie du trajet, on la récupère sur une autre partie.
Ah, pic des charges, le potentiel, mesuré en volts, qui nous donne cette carte énergétique, indépendante de la charge qu'on y met.
Oui.
Le champ électrique qui découle de cette carte, qui est comme la pente, et qui est toujours perpendiculaire aux surfaces équipotentielles, où le potentiel est constant.
Exactement. Et cette circulation nulle du champ électrostatique qui signe son caractère conservatif. Pas de perte ou de gain net d'énergie sur une boucle fermée.
Voilà.
Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour aller plus loin. Hein. Si on ne peut ni gagner ni perdre d'énergie nette en faisant une boucle dans un champ purement électrostatique, comment des appareils comme un canon à électrons, canon électronico, ou un faisceau cathodique, fascio-cathodico, font pour accélérer des charges, pour leur donner de l'énergie de façon continue? Qu'est-ce qui doit changer au fond, quand les champs ne sont plus statiques, mais qu'ils varient dans le temps?
Excellente question pour réfléchir. Ça ouvre la porte à d'autres phénomènes.